incendies, la plupart des incendies volontaires. Et au Portugal aussi, la situation est sous contrôle. Les pompiers sont en train de maîtriser les deux derniers foyers. Et ce midi, deux sapeurs-pompiers sont morts près de Ramatuel dans le Var. Les deux soldats du feu se rendaient sur les lieux d'un incendie. Leur véhicule a quitté la route. Profanation d'une mosquée à Saint-Martin-Boulogne dans le Pas-de-Calais ce matin. La police a découvert des croix gammées et des croix celtiques sur la façade. La voiture d'un responsable de cette mosquée a été vandalisée elle aussi. Sac à dos de retour dans les avions anglais. Depuis ce matin, les passagers des avions en partance de Londres peuvent de nouveau embarquer des bagages à main. Interdiction provoquée par la tentative d'attentat présumé déjouée la semaine dernière. Et l'enquête concernant ces attentats présumés continue. Au Pakistan, le ministre des Affaires étrangères ne veut pas croire à une piste financière pakistanaise. Certains Britanniques soupçonnés dans ces préparatifs d'attentats présumés ont été arrêtés au Pakistan. On retrouve la bourse.
Bilal, dans des volumes faméliques puisque ce sont à peine un petit peu plus d'un milliard d'euros qui ont changé de main depuis ce matin sur l'ensemble des valeurs du SRD. Bien, le marché parisien tente de revenir à l'équilibre après avoir passé toute la matinée dans le rouge. Actuellement, le CAC 40 est justement précisément très stable, 5047 points, soit son niveau d'équilibre d'hier soir. Le tout prouve l'hésitation des investisseurs en cette période de 15 août. Ailleurs, sur le vieux continent, c'est un petit peu la même chose puisque si on regarde l'Euroforce 80, il perd un petit 0,01%. Enfin, sur le marché des changes, c'est une certaine stabilité qui prévaut également avant que ne tombent tout à l'heure les prix à la production du mois dernier aux États-Unis. L'euro se négocie contre un dollar 27,25. Voilà, Bilal, je vous rappelle, le CAC 40, moins 0,01%, maintenant à 5046 points à la Bourse de Paris. Pour France Inter, Cédric Decoeur.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 32-30, France Inter au bout du fil.
France Inter, il est 14h04. Vous retrouvez Vladimir Cagnolari et Solo Soro pour l'Afrique enchantée.
Et merci Bilal Tarabé, à tout à l'heure pour un nouveau flash. Et suivez-nous si vous voulez, puisque nous, on va traverser l'Atlantique.
I'm going home, oh yes. I'm going home, oh yes. I'm going home, Lord, Lord. I'm going home.
Go, go, go! Hey, qui est là?
C'est l'Afrique qui frappe à la porte.
L'Afrique enchantée.
Oh yeah.
Vladimir Cagnolari, Solo Soro, yeah. De 14h à 15h sur France Inter.
Bonjour et bienvenue dans notre Afrique enchantée. Alors comme chaque jour, et oui, même les jours fériés, nous vous proposons un voyage musical sur le continent africain. Aujourd'hui, sur les routes de l'esclavage qui ont vu partir sans retour des millions d'Africains. Alors courez dans votre bibliothèque, cherchez un atlas, mais aujourd'hui, ouvrez-le directement sur la carte du monde. Oui, parce qu'il faut bien ça pour suivre l'histoire de la diaspora noire. Et pour ceux qui n'auraient pas envie d'entendre parler de ce sujet en ce jour de vacances, eh ben soyons cohérents, vous pouvez éteindre votre radio, mais alors faites-le jusqu'au bout, il faut aussi pouvoir renoncer à écouter du blues, du jazz, de la funk, du reggae, du hip-hop, de la samba, de la salsa, de la cumbia et bien sûr de la musique africaine. Et oui, parce que toutes ces musiques racontent d'une façon ou d'une autre l'histoire de l'esclavage. Et comme tous les jours, pour nous accompagner sur les routes de ce périple africain qui nous mènera en Amérique mais aussi sur d'autres continents, j'ai la joie immense d'être assis en face d'un affranchi des clubs et des discothèques, un danseur déchaîné, un marron qui a su gagner les collines de la joie de vivre. J'ai nommé Solo Soro. Bonjour Papa Solo.
Bonjour Vlad.
Comment ça va?
On fait aller.
Solo, c'est vrai que d'habitude dans l'Afrique enchantée, on passe surtout de la musique africaine d'Afrique et aujourd'hui on va un peu déroger à la règle pour jouer surtout de la musique d'origine africaine, on peut dire ça comme ça?
Oui, on peut dire ça comme ça, parce que la musique des populations qui descendent d'esclaves africains, elle a énormément de points communs avec celles que l'on trouve sur le continent. Mmh. Et tu disais tout à l'heure que si on ne voulait pas entendre parler de l'esclavage, qu'il fallait aussi se priver de toutes ces musiques géniales qui sont le reggae, la salsa. Je m'arrête là parce que toi, tu as toute la liste. Mmh. Et moi, pour rien au monde, je ne m'en priverai. Alors, parlons de l'esclavage, ça nous permettra aussi d'écouter de la bonne musique.
Thank you.
we want to go. Africa, we want to know. Nous voulons aller en Afrique. Cette Afrique que nous voulons connaître. Ce sont les Guidelines sur France Inter.
Et les Guidelines sont de la Jamaïque. Et c'est vrai que le rêve du retour à l'Afrique qu'ont entretenu certains descendants d'esclaves, notamment les Rastas de Jamaïque, a été pas mal, comment dire, suscité par des hommes comme Marcus Garvey, par exemple.
Et, oui, et Garvey, qui avait d'ailleurs même monté sa propre ligne, sa propre compagnie maritime pour organiser le retour de ces Africains sur la terre-mère. Une terre-mère souvent vue et imaginée comme la terre promise. Et les Rastas, par exemple, se comparait aux Hébreux de la Bible en quête du retour à Sion.
Et, Sion, ouais.
Ou Sion, si tu préfères, si on veut prononcer ça en français, Sion ou Sion, qu'ils appelaient Zion. D'ailleurs, si on prête l'oreille, dans beaucoup de compositions jamaïcaines, on entend toujours Zion, Zion, c'est la terre promise. Et l'action de Marcus Garvey est parfaitement contée dans l'ouvrage de la journaliste Hélène Lee, Le Premier Rasta. Je vous le conseille vivement.
Ouais, c'est vraiment un ouvrage de référence. Et c'est vrai que l'autre jour, on parlait à propos des religions des Falachas, les Juifs d'Éthiopie qui justement se rattachent à l'Ancien Testament puisqu'il faut remonter leurs ancêtres à l'union de Salomon et de la reine de Saba. La reine de Saba, c'était la reine de la région actuelle, la région qu'on appelle l'Éthiopie actuellement, voilà. Et de cette union serait née la dynastie des empereurs d'Éthiopie, dont le dernier représentant fut Haïlé Sélassié, le Rastafari, qui est très souvent cité, sinon chanté par les musiciens reggae qui font Rastafari. Et donc ce mythe du retour à l'Afrique a, de manière concrète, parfois puisque certains sont revenus, ou symbolique, continuer à hanter l'imaginaire des Noirs de cette immense diaspora qui est née de la traite transatlantique.
Ouais, parce que la traite transatlantique a été la traite d'êtres humains arrachés par la force à leur terre pour être vendus comme esclaves à l'autre bout, mais complètement à l'autre bout du monde, à l'autre bout de l'Atlantique, et essentiellement dans les Amériques, en fait, cette partie du globe aujourd'hui qu'on connaît sous le nom d'Amérique, Amérique du Nord ou Amérique latine. C'est là où tous ces Noirs ont été vendus.
Oui, on pratiquait donc le commerce triangulaire, hein, je le rappelle, c'est que les navires partaient, par exemple, quand ceux qui partaient de France, ils partaient du Havre, de Nantes ou de Bordeaux, chargés de pacotilles, notamment des perles de verre, mais aussi des tissus, de l'eau de vie ou des armes. On les échangeait dans les ports, dans les comptoirs négriers africains contre des esclaves. Et puis, on repartait avec ces esclaves, qu'on appelait la cargaison de bois d'ébène vers les Amériques. On les échangeait là contre des lettres de change ou bien contre une cargaison de denrées tropicales, comme du sucre ou du café, qu'on revendait en France. Et c'est là, évidemment, qu'on remplissait les caisses. Et la quantité de café ou de sucre, justement, était telle, à une certaine période, au XVIIIe siècle notamment, que le seul marché français pouvait plus les absorber, ce qui fait que la France est devenue un grand exportateur pour les autres pays européens, notamment les pays du Nord. Et au XVIIIe siècle notamment, le café, ça représente un cinquième de la valeur totale des exportations françaises.
Mais il faut dire aussi que les hauts lieux du commerce triangulaire, c'était par exemple un lieu comme l'île Saint-James, c'est au large de Banjul, reprenez votre carte d'Afrique pour ce coup-ci, et c'est la capitale actuelle de la Gambie actuelle, je dois dire.
Oui, et puis pour continuer sur la liste justement de ces hauts lieux ou ces lieux tristement célèbres de la traite négrière sur le continent, il y avait aussi la ville de Ouida, au Bénin, c'est dans le golfe de Guinée, qu'on appelait justement aussi autrefois la côte des esclaves. Et on voit aujourd'hui la porte du non-retour qui a été construite il y a un peu plus de 10 ans maintenant en guise de commémoration. Elle a été construite sur une plage qui à Ouida s'appelle Zongboji. Et cette plage, justement, c'était le dernier morceau de terre africaine que foulaient les esclaves avant d'embarquer sur les bateaux. Il y a aussi, comme autre lieu important, Saint-Louis du Sénégal et ses esclaveries, dont il reste encore des traces. Si vous allez à Saint-Louis, vous pourrez en visiter certaines. Et là, bien sûr, de tous ces lieux dont on ne parle que de l'Afrique de l'Ouest.
Oui, là, tu nous mets les pleins pieds en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Ouest, c'est un des lieux qui est resté le plus tristement célèbre, c'est l'île de Gorée. Et Gorée est à 3 kilomètres au large de Dakar, la capitale actuelle du Sénégal. Et pareil, il semblerait, selon des historiens, que ce sont les Portugais qui furent les premiers Européens à y débarquer en 1444. Et arrivent ensuite les Néerlandais qui l'ont appelé Goeri, qui veut dire, si je ne me trompe pas, bonne rade.
Et tu te débrouilles en flamand alors aussi.
Quand on fouille sur le site internet, on peut trouver, on peut être très très fort. Et c'est bien plus tard, c'est-à-dire vers au 17e siècle, que français et anglais arrivent. Et eux, ils se mettent à se battre pour la paternité de cette île Gorée. Et ça, leur bataille a duré pratiquement plus d'un siècle. Et c'est finalement la France qui en a gardé la possession jusqu'à l'indépendance du Sénégal en 1960. Gorée, aujourd'hui, le lieu le plus médiatisé comme passage obligé de tous les esclaves embarqués à travers l'Atlantique. Mais ce n'était certainement pas le seul.
Oui, en tout cas, Gorée, tu disais justement que c'était le lieu le plus médiatisé. C'est vrai qu'à Gorée, on peut visiter aujourd'hui la maison des esclaves qui a été transformée en musée. Et vous vous rappelez peut-être, justement, à propos de cette médiatisation, de la visite du président Clinton, accompagné par le président sénégalais de l'époque, Abdou Diouf, c'était en 98, où il y a eu énormément de choses, de photos et de reportages sur Gorée. Il y a parmi ces photos, une photo de la maison des esclaves qu'on voit souvent. C'est un couloir assez étroit, peint dans un rouge-rose délavé. Le couloir est très sombre et au bout, en lieu et place d'une porte, on voit simplement l'éclat du soleil et l'océan. Et ça pourrait presque être une image rassurante ou apaisante, voire même une jolie photo si on la sort de son contexte. Mais dans le contexte de Gorée, l'océan, vu de ce couloir, ça rime avec la fin de la liberté, c'est-à-dire avec une certaine forme de mort. Pierre Akendengue sortait un album qui porte le nom de cette île, Gorée. Voici la chanson de Gorée.
Ce matin là à l'aube, Sourasse j'ai ta langue. Sourasse, c'est au bateau là, il y a de la mémoire de la mer. Qui ramène dans ses vagues les souvenirs des drames qui viennent rendre l'âme sur notre rivage. Souviens-toi, Africa, de Gorée, Africa. Gorée, 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 oh. Gorée, 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 oh. Cinq coups de canon. Téléphone, Sourasse, c'est ce bateau même qui avait emporté l'avant-père de mon père, l'avant-mère de ma mère, et même les voisins et leurs voisins aux vampires du lointain. Souviens-toi, Africa, de Gorée, Africa. Gorée, 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 oh. Gorée, 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 oh. Malgré l'appel au calme des notables vaincus, traîtrises, puants, l'alcool, la terreur s'empare de toute notre terre. Les tam-tams se sont tués, même les dieux se sont enfuis vers l'arrière pays. Au lieu dit tant pis, j'ai plus d'une heure. Souviens-toi,
L'histoire de Gorée, c'est chanter comme on pleure, c'est pleurer comme je chante. Gorée, malgré l'appel au calme, appel au calme, course et freinée, glorie rose, volcan de la jeunesse, fleur de la geste promise, patience et même confiance, prudence et puis silence, vide et perdu, même peine. Encore des coups de canon, sourasse le ballon, sourasse une estabata, puis on parta, sac à la garde enchaîné, vers des terres sans connu, en passant par Gorée. Salut à toi au diaspora, salut à toi au mer en larmes. Être cet enfant prodigue qui revient jour vers le père pour le père. Peu importe que ton enfant fût noir, blanc, jaune ou rouge, au-delà de la frontière de cette vallée des larmes, l'âme est incolore, l'amour est incolore.
Toi, poète, salut à toi, diseur de la parole salvatrice. Salut à toi, celui qui trouve les mots pour soigner les douleurs profondes comme le moine. Salut à toi, Pierre Akadenge.
Hey,
c'était Pierre Akadenge qui parlait.
Ah bon, hein?
Ah, vraiment.
Il parlait de, donc de Gorée et aussi du trafic humain qui allait bien au-delà. Merci, Pierre Akadenge. Et voilà. C'est ce que je voulais dire sur la Pierre Akadenge.
Et justement, en tout cas, puisque tu dis que le trafic humain allait bien au-delà, on a parlé de quelques villes, quelques centres importants, mais c'est peut-être intéressant aussi de rappeler les autres endroits qui étaient, comment dire, ponctionnés pour cette traite transatlantique.
Pierre Akadenge a parlé de Gorée, bien entendu, mais le trafic humain, on l'a déjà dit, il allait bien au-delà. Et en Afrique de l'Ouest, les navires français accostaient dans l'actuel Bénin, en Guinée-Conakry, et au Sénégal. Les Anglais, eux, ils commerçaient dans les ports de l'actuel Libéria, de la Sierra Leone, du Ghana, du Cameroun, du Nigeria, mais aussi en Afrique de l'Est. Et quant aux Portugais, eux, ils occupaient les côtes actuelles de l'Angola ou du Mozambique. Et bien entendu, la liste n'est pas exhaustive.
Oui, mais en tout cas, il y a eu peu à peu comme des sortes de quasi-monopoles qui se sont institués envers certaines régions d'Afrique qui deviendront ensuite les colonies de ceux qui avaient acheté le plus d'esclaves. Comme quoi, il y a une certaine continuité dans l'histoire. Mais ce qui est clair en écoutant cette liste non exhaustive que tu as citée, c'est que c'est par millions que les Africains ont été déportés vers l'Amérique. Et là-dessus, il y a toute une bataille entre historiens à ce sujet. Alors, combien de millions? On parle souvent de 11 à 12 millions ou plus. Mais franchement, cette bataille sur les chiffres, je la trouve assez malsaine. Parce que ce qu'il y a de plus choquant dans la traite transatlantique spécifiquement, c'est qu'au-delà du nombre, c'est le côté industriel très organisé de cette traite-là.
Et les navires négriers, par exemple, tu vois, ils étaient conçus spécialement pour ne perdre le moins de place possible, pour entasser le maximum d'esclaves dans ces navires.
Rationalité économique oblige.
Voilà. Et tu vois, pendant l'acte d'achat des esclaves, ils étaient auscultés, et tâté, sous-pesé, pesé, mais franchement, comme du bétail. Et pour savoir si on en tirerait le meilleur des prix, ils étaient souvent achetés, mais par lot. Et les esclavagistes, eux, disposaient même de livres de compte où étaient tenues les dépenses et les recettes, exactement comme les pichets du quartier.
Et à propos des dépenses et des recettes, justement, les termes de l'échange entre les marchands occidentaux et les chefs africains qui leur vendaient des esclaves étaient inégaux. En tout cas, c'était pas exactement les mêmes. Je prends l'exemple de Madagascar, où les marchands profitaient d'une aubaine incroyable, c'est qu'on pouvait y acquérir des esclaves, par exemple contre des perles de verre ou de cornaline. Or, elles ne coûtaient vraiment pas grand-chose aux marchands, qui eux allaient s'approvisionner dans les ateliers de Venise ou de Cambay. Cambay, c'est au nord de la ville actuelle de Bombay, en Inde. Et justement, en 1640, il y avait un voyageur anglais qui avait suivi un de ces voyages négriers. Et il s'appelait Hammond, et il écrivait à ce propos: « Nous avons acheté des bœufs très gros pour 5 ou 6 perles d'agate qui ne coûtent guère plus de 19 pence dans l'Inde. » Or, alors donc, évidemment, on allait s'approvisionner de ces espèces de monnaies d'échange qui ne coûtaient pas grand-chose aux marchands anglais. Et de leur côté, les malgaches, eux, ils s'en servaient de ces perles d'agate, donc de ces monnaies d'échange, pas exactement comme nous on se servait alors de monnaie, ils s'en servaient comme des talismans. Un peu comme en Afrique, on utilisait les kauris, donc ces petits coquillages qui servaient de monnaie, mais pas à la manière dont nous on l'utilise. Comme des objets qui servaient à des transactions, mais qui étaient aussi investis d'un sens, voire d'un pouvoir religieux. Ouais. On en a parlé un petit peu quand on a évoqué l'argent tout au début du mois de juillet. Et donc de l'autre côté, les Occidentaux, eux, étaient dans une dynamique économique très différente, beaucoup plus rationnelle, qui était déjà intégrée, je dirais, à une économie capitaliste en plein essor qui préfigurait, voilà un mot compliqué, la mondialisation des échanges, et dont on voit, par exemple, justement, les traces dans ces beaux hôtels particuliers de Nantes ou de Bordeaux. So, il y a pas mal de gens qui trouvent qu'on insiste trop sur la traite transatlantique, que les Arabes du Moyen-Orient ont eux aussi ponctionné le continent, que les Africains entre eux n'ont pas attendu les Européens ni les Arabes pour connaître l'esclavage. Ça, c'est un argument qu'on entend souvent.
Oui, c'est courant. Mais c'est vrai que, comme on dit chez moi, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. On ne peut pas ne pas admettre que l'esclavage a existé en Afrique. Mais il ne peut pas du tout se comparer à la dimension de l'esclavage transatlantique que nous connaissons et à la traite des Noirs, ni la justifier, en aucun cas. Le peu que les anciens de chez moi m'ont dit sur l'esclavage interafricain, c'est celui des guerres de domination. Les combattants qui étaient faits prisonniers à la suite d'une guerre, ils étaient soumis à un esclavage, effectivement, par les vainqueurs. Ça veut dire que ces esclaves constituaient une main d'œuvre pour les travaux communautaires des vainqueurs, et ils étaient affectés aux tâches domestiques du chef du village, du chef de canton, du chef de la région et des nobles de la région. Il y a aussi les cas de figure où de riches notables, en échange de bétail ou de produits agricoles, acquéraient des esclaves non seulement pour la main d'œuvre, mais aussi pour élargir surtout le clan familial. Il ne faut pas oublier que dans nos sociétés de type traditionnel, on est puissant par le nombre de populations qu'on nourrit, par le nombre de bouches qu'on nourrit. C'est-à-dire, plus on a du monde chez soi, plus on est considéré comme quelqu'un de socialement établi. Donc, les notables pouvaient acquérir des esclaves qui avaient été faits prisonniers pour grossir le clan familial et aussi pour la main d'œuvre. Et même à la colonisation, ceux qui, les indigents, les, ce qu'on peut appeler les pauvres, qui ne pouvaient pas payer l'impôt colonial, ils donnaient un membre de leur famille à une personne qui payait l'impôt à leur place. Mmh. Et cette personne qui était donnée servait, enfin, avait une sorte de statut d'esclave, puisque la personne était effectivement corvéable à souhait. Et ceci se retrouvait donc en situation d'esclavage, quoi. Mais dans tous les cas de figure...
Ce que tu as cité là, c'est ça?
Voilà. Que ce soit l'esclave donné, la personne donnée en remboursement de l'impôt payé, ou que ce soit le prisonnier qui a été mis en situation d'esclave, ou que ce soit le notable qui acquiert une personne, bref, dans tous les cas de figure, l'esclave n'était pas traité à coups de fouet, de la même façon que dans les champs de coton d'Amérique, où ils étaient, comment on appelle, plus que des animaux, des sous-hommes, voire des animaux. Et le maître dans la société dont je parle, donc en Afrique, c'est de ce que je connais, chez les Sénoufons, le maître trouvait une épouse à l'esclave. Il s'occupait de ses funérailles en cas de décès. Et l'esclave finissait par faire partie intégrante de la famille. Ce qui ne me semble pas être exactement la même chose que pendant la traite des Noirs. Mmh. Et bien entendu, cet esclave à qui on donnait une épouse, il faisait des enfants dans le village, et ses enfants étaient intégrés dans la vie communautaire, quoi, dans la vie de la tribu. Et bon, je veux dire, pour comparer cet élément, enfin, ce type d'esclavage à l'esclavage de la traite des Noirs, mmh. Je pense qu'il y a une légère différence. C'est pas non plus pour justifier l'esclavage interne à l'Afrique. Mais je pense qu'on peut pas apporter de l'eau au moulin de ceux qui disent « Ouais, mais avant la traite des Noirs, il y avait l'esclavage aussi en Afrique, gna gna gna, katate, katata, et que ouais, pourtant on ne doit pas en parler. »
C'est une façon de se dédouaner, justement, pas forcément avoir mauvaise conscience de la traite transatlantique en disant « Les autres aussi l'ont fait. » En tout cas, c'est vrai que, pour compléter un peu ce que tu disais, Solo, si on prend le cas de la Mauritanie actuelle, par exemple, la Mauritanie, c'est le trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique noire, donc en Afrique de l'Ouest. Et en Mauritanie, il y a plusieurs catégories de population. Il y a les Maures qui parlent le Hassania qui est dérivé de l'arabe. Ce sont eux qui dominent toujours la société, économiquement, politiquement. Et puis, il y a les Négro-Mauritaniens, comme ils s'appellent eux-mêmes. Eux, ils parlent Peul ou Soninké, qui sont aussi des langues qu'on trouve dans les pays voisins, le Mali ou bien le Sénégal. Et entre les deux, il y a les Aratin, ce sont les descendants d'esclaves affranchis qui ont, eux, adopté la culture mort. Mais la Mauritanie, elle avait déjà aboli l'esclavage, un peu un esclavage du genre dont celui dont tu parles, en 1960, mais elle a dû quand même l'abolir à nouveau en 1980, preuve quand même que le phénomène perdurait et doit encore perdurer si on en croit certaines associations mauritaniennes des droits de l'homme qui se battent par rapport à ça. Donc c'est vrai, l'esclavage n'est pas le seul fait des Européens, mais franchement les arguments du genre « on n'était pas les seuls », ça vaut pas grand chose. D'abord, avant tout, est-ce que parce que si ton voisin a tué, est-ce que ça te dédouane d'avoir tué toi aussi?
Non, pas du tout.
Hein, comme on dit chez nous au Congo, avant de parler des autres, il faut d'abord parler de soi-même, et c'est ça qu'on fait aujourd'hui précisément. Et puis après, même si ça peut choquer de dire ça, mais ce que tu as développé un peu solo, c'est qu'il y a aussi des nuances dans ce qu'on appelle esclave chez les uns ou chez les autres, ce qui rend pas forcément meilleurs les uns que les autres. L'idée au fond, c'est pas d'avoir bonne ou mauvaise conscience, mais de reconnaître une réalité qui fait partie de notre histoire ici en France. Et ceux qui veulent pas la reconnaître, bah, c'est sans doute par rapport à... C'est sans doute pas par rapport au passé qu'ils ont mauvaise conscience, mais peut-être plus par rapport au présent. Et là, je vais m'expliquer en récupérant une citation d'Alexis de Tocqueville qui disait que « Il y a un préjugé naturel qui porte l'homme à mépriser celui qui a été son inférieur, longtemps après qu'il soit devenu son égal, à l'inégalité réelle que produit la fortune ou la loi succède toujours une inégalité imaginaire qui a ses racines dans les mœurs. » Et c'est bien cette réalité imaginaire qui alimente le racisme et permettra, après l'esclavage, la colonisation.
L'Afrique enchantée, Vladimir Cagnolari, Solo Soro, sur France Inter.
Allez, on part de l'autre côté de l'océan Indien, où l'esclavage a aussi battu son plein, et c'est justement de ce côté que sévissait la traite arabe en direction notamment de Oman ou des actuels Émirats arabes. Mais nous, comme on a dit qu'on allait d'abord parler de notre histoire, eh ben on va s'arrêter sur l'île de la Réunion. La Réunion, qui à partir de la fin du XVIIe siècle s'est mise à importer des esclaves d'abord des îles voisines, comme Madagascar, et puis aussi du Mozambique. Et après l'abolition de 1848, ce ne furent plus des esclaves, mais des contractuels, des engagés, comme on disait, indiens, puis chinois, qui furent appelés et qui sont restés à la Réunion, ce qui a fait de la société réunionnaise une société métisse. La musique la plus emblématique de la Réunion, eh ben, c'est sans doute le maloya. C'est une musique qui emprunte largement à l'Afrique et à Madagascar et qui s'est perpétuée presque en cachette chez les descendants d'esclaves qui étaient venus de ces pays. Le maloya justement a été mal vu, sinon banni, en tout cas jusqu'au début des années 80, puisque c'était assimilé à une musique de révolte. Et ce qui est sûr, c'est que c'est une musique qui raconte le quotidien des gens qui se sont retrouvés comme pauvres dans pas mal d'endroits du monde, être des descendants d'esclaves. Bref, c'était une sorte de blues, et puis il est ressorti de l'ombre finalement, peu à peu, avec des gens comme Daniel Waro, et un peu plus tard, le chanteur Davy Sicard s'en est emparé, en le mélangeant avec d'autres musiques. Son maloya n'est donc pas des plus orthodoxes, c'est pour ça d'ailleurs qu'il l'appelle le maloya cabossé.
Pelo vila li mia maya, pelo ni pugade. Pelo vi piru ve maya, pelo vi wa rentre. Na parot kuna tout histoire. Sa coulée, la jalousie, la parole sans mon noir, qui démange et boussé, et la découcoma, la rale et malouya, capoussé, ça la rive pousselle, ça t'éta ou la zèle, rale et malouya, capoussé.
Maloya de Davy Sicard a beau être cabossé, matiné de blues, de soul, voire de rap, il n'oublie pas ceux qui en ont été les pionniers de ce maloya, les marrons, ces esclaves qui ont fui les plantations du maître.
Le manque de considération de l'humain, tout simplement grandissant, l'envie de partir et de se retrouver en tant qu'humain, en tant qu'homme, justement, donc, était de plus en plus important. Donc, les hommes devenaient marrons, c'est-à-dire qu'ils prenaient la fuite et s'installaient donc dans les montagnes, dans les coins les plus reculés donc de la Réunion, donc au cœur de la Réunion. Mais il leur fallait aussi quand même des outils, il leur fallait s'établir en société aussi quoi. Donc c'est là qu'ont commencé les affrontements, donc il leur fallait revenir du côté des maîtres pour leur voler, pour leur soustraire des outils de travail et des femmes également. Et bon voilà, donc la tension a été de plus en plus importante de cette manière-là. Les conséquences que tout ça a pu avoir sur les Réunionnais d'aujourd'hui, c'est que vraiment tout ce qui était encore en rapport avec le parler créole, avec le vivre créole, était vraiment mal vu. Et lorsqu'on grandit avec ce genre d'idées dans la tête, il apparaît à ce moment-là, si vous voulez, comme une sorte de sentiment d'infériorité, ou en tout cas, on ne se sent pas à sa place. Voilà. Donc, un sentiment de colère qui peut naître et donc qui peut prendre de l'ampleur. Donc si effectivement, à un moment donné, les Réunionnais donc, se sont rassemblés autour du maloya et d'autres mouvements donc, qui leur permettaient d'être pleinement ce qu'ils sont, ça reste logique. Donc aujourd'hui, ou en tout cas depuis quelques années, les gens acceptent davantage donc, que la langue créole, notamment, puisse exprimer autre chose que des blagues ou alors des insultes. Que l'on peut parler et avoir un discours entre guillemets intelligent en parlant créole.
Et cette langue créole, elle est parlée à La Réunion pas seulement par les descendants d'esclaves, elle est aussi parlée par les descendants de maîtres, si je ne m'abuse.
Tout à fait, tout à fait. En fait, Réunion, aujourd'hui intègre aussi bien donc les Africains, enfin ceux qui sont d'origine africaine, que ceux qui sont d'origine malgache, européenne, asiatique, indienne. Il y a vraiment de tout. Donc aujourd'hui, me concernant, c'est vraiment ce que j'ai envie de revendiquer. La réunion de toutes mes origines. Voilà. Cela dit, la part malgache, africaine, ayant été vraiment dénigrée pendant de longues années, il y a, à mon sens, un travail à faire pour que cette part-là retrouve son statut, c'est-à-dire équivalent aux autres.
C'est au cœur même de mes nuits que tu es venu sans faire de bruit. Sans doute as-tu vu la douleur qui était en train d'assécher mon cœur. J'avais versé toutes mes larmes et même déposé les armes. Prêt à me rendre à l'évidence, mais au-delà de toutes mes espérances. Oh, Maloya, Maloya, Maloya. Oh, Maloya, qu'as-tu fait? Oh, Maloya, 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 qu'as-tu fait de ma vie? Pensez bien être perdu, mais peut-être avais-je toujours en moi ce qui fait que je me retrouve en toi. Est-ce pour cela que tu as choisi de m'aider à reprendre mes esprits? Le vrai et unique chemin.
La chanson Ker Marron, c'est justement un hommage à cette culture du marronnage issue de l'esclavage.
Oui, oui, parce que le Maloya a vraiment changé ma vie. Je le dis pas pour faire joli ou parce que le voilà pour le texte ou la mélodie ou quoi que ce soit. Non, c'est le Maloya a vraiment changé ma vie, ma perception des choses. Et à notre époque, oui, je n'ai pas de gêne à dire que je vis le Maloya en marron. Je le vis en marron. Alors ça fait bizarre effectivement, mais justement avec tous les toutes les chaînes de l'esprit qu'on nous a mises dans mon enfance, si vous voulez, donc par rapport au fait de ne pas parler en créole, par rapport au fait que donc tout ce qui était en rapport avec entre guillemets la négritude était vraiment honteux, etc. La musique, le Maloya me permet vraiment de retrouver, de me retrouver, de trouver la liberté, quoi. Voilà, donc je suis un marron. C'est ma propre liberté, en fait, que je cherche. Parce que, encore une fois, c'est vrai que j'ai envie que ces chaînes se brisent. Mais pas seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Voilà. Pour les générations à venir. Et que nos enfants soient vraiment fiers de tout ce qu'ils sont. Et qu'ils ne soient pas non plus donc à se dresser forcément face aux Français ou voilà, ou face à l'Africain ou face aux Malgaches ou aux Comoriens ou je ne sais qui, mais qu'il soit en paix avec lui-même. Et pour ça donc, il n'y a rien de tel que l'expression. l'expression avec autrui, l'expression par le biais de la musique. Bon, voilà. Donc, cœur marron, et c'est ma façon vraiment de ressentir le Maloya, et c'est ma façon aussi donc de trouver ma liberté.
Tiens beau, la main ton son. Autant de mots qui te ressemblent. Tiens beau, cœur marron. Autant de mots qui portent ton nom. Sauvate, sauvate, ça couille, ça couille.
Qu'est-ce que t'as raison, David? Avec une musique comme ça, on fait le tour de la planète et on shoot tous les fascistes. Voilà. C'était Cœur Marron avec... je dois traduire, c'est Cœur Marron. C'est par le français et de la Réunion, David Sicard. C'est une chanson qui fait allusion donc aux marrons esclaves qui ont pris la fuite vers les collines pour se libérer enfin, de leur maître de l'esclavage.
Et comme à la Réunion, le territoire où les esclaves furent emmenés ont donné naissance à des cultures créoles, mais on retrouve toujours dans ces cultures les traces de l'Afrique et de ces cultures originelles.
Oui, nos auditeurs qui nous suivent depuis toujours se rappellent...
Ah
oui, attends, moi j'ai fait confiance à leur fidélité. Hein. Et, bon, la semaine dernière, ou il y a quelques semaines déjà, je parlais de cet instrument qu'est la cuica, instrument qu'on retrouve au Brésil et que la samba a rendu très célèbre. Mais on le retrouve chez moi encore aujourd'hui, en pays sénoufo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, en région sahélienne.
Ouais, d'ailleurs, tu étais vexé que les gens ne connaissent que la cuica et pas l'instrument sénoufo.
Voilà, et pas le nakunung.
Le comment peuple tu dis
nakunung. Voilà, c'est la même chose que la cuica.
Tu vois, c'est plus facile à prononcer.
Bon. Et c'est pareil pour le reggae jamaïcain. Un des rythmes principaux, c'est le naya bengi, que l'on... Hein.
Continue à parler, hein. Mais il faut pas t'arrêter de parler quand tu joues.
Non, mais on joue, on veut laisser écouter la musique. Ah, mais bref.
Ouais, donc il y a le rythme jamaïcain, il y a
voilà,
Bengi.
Qui est le Nayabengi et que l'on retrouve aussi dans le nord, la Côte d'Ivoire, toujours dans des musiques de chez moi. Et ce qui me fascine, je constate que tout ce qui a subsisté au temps à l'espace, hein, tous les sons ou les instruments qu'on retrouve chez nos cousins d'Amérique, ça existe encore la plupart du temps dans le sacré, dans nos pays aujourd'hui. Et le Nayambengi, c'est vraiment le rythme du Tchepr, qui est une musique d'initiation, qui est une musique sacrée, qu'on ne joue qu'à la mort d'un initié, ou qu'on retrouve dans certaines musiques profanes comme le Yagba, dans le nord de la Côte d'Ivoire également. Et bon, qu'on ne s'étonne pas à l'écoute des musiques des gens comme, comment il s'appelle, Alpha Blondie ou Tiken Jafakoli.
Et tu parlais du sacré, c'est vrai que justement, côté sacré ou religieux, le vaudou du Bénin se retrouve aussi dans le vaudou d'Haïti, on le retrouve aussi dans la Santeria de Cuba, le candomblé au Brésil, etc. Et parce qu'en fait, la diaspora d'Afrique... Elle a donc été disséminée dans les Antilles françaises ou non, des autres Antilles, le sud des États-Unis, la Colombie, le Venezuela, et j'en oublie sans doute certains, et aussi le Pérou, parce qu'on oublie que le Pérou, lui aussi, a ses musiques noires, qui ont marqué de leur empreinte le pays, un pays dont la musique ne se résume évidemment pas aux flûtes de Pan. Culture créole, donc métisse, a donné naissance à une chanteuse magnifique qui raconte les travaux pénibles que supportaient les esclaves sous le fouet. Ça s'appelle El Mayoral et elle, c'est Susana Baca.
Que dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada. Que dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada. El Mayoral con su reto no deja descansar. Mayoral con su reto no deja descansar. A la
las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar. A las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada! ¡Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada! ¡El mayoral con su reto no nos deja descansar! ¡El mayoral con su reto no nos deja descansar! ¡A las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar! ¡A las 4 de la mañana cuando el sol se va a asomar! ¡El mayoral con su reto no nos deja descansar! ¡El mayoral con su reto no nos deja descansar! ¡Ay, mayoral! 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 ¡Saca tu machete, Cipriano! ¡Afila tu lampa, José!
¡Afila tu lampa!
¡Saca tu machete, Cipriano!
¡Saca tu machete!
¡Afila tu lampa, José!
¡Afila tu lampa!
¡Saca tu machete!
¡Saca tu machete!
¡Afila tu lampa!
¡Afila tu lampa!
¡Saca tu machete!
¡Saca tu machete!
¡Afila tu lampa!
¡Afila tu lampa!
¡Saca tu machete, Cipriano!
¡Saca tu machete!
¡Afila tu lampa!
¡Afila tu lampa,
José!
¡Saca tu machete!
¡En la madrugada! ¡Cipriano!
¡Quelle douleur dans ma poitrine! Dans les plantes dès le matin, le surveillant avec ses menaces ne nous laisse aucun répit. Je vous ai résumé, chers auditeurs, la chanson El Mayoral par la péruvienne Susana Baca sur France Inter.
El Mayoral, c'est donc le surveillant, justement. Et c'est vrai que les puissances esclavagistes ont mis du temps à abolir l'esclavage. Et souvent, ça n'a d'ailleurs pas été suivi tout de suite des faits. Ou encore pire, on est revenu en arrière, parfois, en le réinstituant. Ça, c'était Napoléon, puisqu'en 1802, il a réinstitué l'esclavage qui avait été aboli en 1793 pour l'île de Saint-Domingue. Saint-Domingue qui, un petit peu plus tard, en 1804, va devenir la première république noire sous le nom d'Haïti, notamment grâce à un personnage comme Toussaint Louverture. Si vous habitez en Franche-Comté, puisque c'est là qu'il a été déporté et où il est mort, vous pouvez donc aller visiter le Fort de Joux. Et on va entendre pour finir que, bien après l'abolition de l'esclavage, la condition des Noirs de la diaspora n'avait pas forcément énormément changé, même s'il y avait le fouet en moins. C'est vrai, je voudrais qu'on écoute une chanson d'Eugène Monnat et les explications de Claudicia. Vous qui nous écoutez, vous l'avez peut-être déjà vu présenter cette année l'Eurovision, mais surtout il anime sur Radio France Internationale une émission qui est dédiée aux musiques d'Afrique et de sa diaspora. Il est né en Guadeloupe, mais bizarrement, peut-être encore plus qu'aux Antilles, c'est en Afrique qu'il est célèbre.
Ah là, Claudicia en Afrique, c'est de justesse s'il n'a pas le numéro personnel de la quasi-totalité des présidents d'Afrique.
Oui.
Ah ouais, non, parce que, je veux dire, sa position d'animateur, de présentateur, et des choses qu'il ressort à travers les musiques qu'il présente, l'ont rendu hyper, hyper populaire. Il débarque dans n'importe quel aéroport d'une capitale africaine, ben c'est, je sais pas, 2000, 3000 personnes qui viennent l'accueillir, quoi. Une véritable célébrité.
En tout cas, pour l'Afrique francophone, et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait justement le pont entre l'Afrique et les Antilles. Et il a contribué à ressortir cette chanson fameuse d'Eugène Monnat qui s'appelle Bois brûlé.
La force d'Eugène Monnat, c'est que c'est quelqu'un de la terre. C'est véritablement, et dans tous les sens du terme, un Africain de la Caraïbe, de cette Martinique. Il porte en lui l'africanité des Antilles. Et cette africanité avec cette langue créole, qui s'appuie à la fois sur du vieux français, mais surtout et avant tout sur plusieurs langues africaines. Et le créole qu'emploie Eugène Monnat dans ses chansons est le créole originel. Et ça, c'est aussi la force de Monnat. C'est pour ça qu'il était et reste toujours pour, et pas simplement pour les Martiniquais, mais aussi pour les Guadeloupéens, un repère identitaire, une sorte de baromètre. Aujourd'hui, lorsqu'on entend les chansons antillaises, le créole est très francisé. Bon nombre de Français peuvent comprendre ce qui se dit. Alors que lorsqu'on écoute Eugène Mona, parfois, même moi, je dois m'y reprendre à deux fois pour entendre le mot qu'il a dit. Ah oui, ah d'accord, ce mot-là, ah oui, ça, qu'on n'emploie plus. Et c'est pour ça que c'est important d'écouter Eugène Mona. C'est dans ce titre-là, c'est le Eugène Mona qui relate le quotidien des plus humbles, vraiment de l'esclave, ou de celui qui tente de survivre après l'abolition de l'esclavage. C'est celui qui se lève le matin, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans la chanson, et qui attache sur lui, il camaré cordaille, c'est-à-dire il attache cette corde qui lui sert de ceinture. C'est, en une phrase, il arrive à dépeindre la situation misérable, la condition misérable des Martiniquais, de ses descendants d'esclaves. Et il dit d'ailleurs qu'il part donc travailler, il n'y a pas de petit déjeuner, il n'y a pas ceci, il n'y a pas tout ça, il part travailler jusqu'à 6 heures. Jusqu'à 6 heures le soir. Et 6 heures le soir, lorsqu'on est en terre antillaise, il fait déjà nuit. Donc, il exprime bien le dur labeur. Il le dit clairement, il parle de la misère qui est la sienne. Et il dit, de toute façon, je ne suis qu'un bois brûlé. Je ne suis, on pourrait traduire ça par, je ne suis qu'un nègre, mais au sens péjoratif du terme. Je ne suis rien, je suis un moins que rien. Je suis un damné de la terre, pour reprendre le titre d'un livre de France Fanon.
Les points levés les matins, moins qu'à prendre bout de côte là, moins qu'à marrer et moins, pour moins à faire moins, et garder son niveau moins. Les six heures moins fini, moins qu'à prendre grand roi, moins qu'à lever ses moins, pour moins m'en décourage. À la divinité, oui, paix ben moi, mon Dieu, pour moi, pas ça, sans-tu, j'en misère moi, j'en misère moi, bon Dieu, fais-moi pour ça, ça moi un bois brûlé. Il va moins, il sent, il m'en vient résistant d'après tout. Oh, on t'appelle, il t'appelle, comprends-moi. Nous pas fait pour le luxe, pas même pour le calice, nous n'y doit être admis. D'après ça, moins qu'à ouais. Et moins qu'à attendre ça.
Brûlé, comme on dirait, nègre au sens péjoratif du terme, est-ce que ça veut dire qu'à l'époque où Mona chante cette chanson, et toujours aujourd'hui, ça reste un terme péjoratif ou au contraire qui a été retourné comme un terme de fierté, par exemple, ce terme de bois brûlé?
Alors oui, c'est un terme de fierté. Toute la négritude de Césaire, on pourrait rejeter cette terminologie-là, la négritude, être un nègre, mais finalement, de ce qui était une insulte pour le dominant face au dominé, devient une sorte d'habit de fierté. C'est-à-dire que, ok, mais ça n'enlève rien à ce que nous sommes réellement, à notre dignité d'homme.
Et ça, c'est extrêmement important. Et il y a tout ça chez Eugène Monin. C'est la force de l'artiste et c'est aussi la force de ce peuple antillais, de ce peuple qui, malgré l'adversité, s'est toujours levé à supporter les pires sévices, toute la perversité de la machine esclavagiste. Et Eugène Monin est à la fois le porte-parole de tout cela, mais aussi, comment dire, une sorte de figure de proue de la lutte et d'une certaine forme d'émancipation. Ne pas avoir peur de ce que nous sommes ou de ce qu'on a fait de nous, mais se servir de cela pour être plus fort et savoir être fier de ce que nous sommes.
Rappelons qu'en 2001, la loi Taubira reconnaît l'esclavage comme un crime contre l'humanité.
Et que depuis, il y a aussi eu une journée de commémoration. Le 10 mai, c'est depuis cette année, on est en train de manger le journal, donc on va faire très vite. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On vous retrouve bien sûr dès demain. Il est 15h10, vous êtes sur France Inter. Et voici le journal avec Bilal Tarabé.
Trois sapeurs-pompiers sont morts, un autre est grièvement blessé. Ce midi, près de Ramatuel dans le Var, leur véhicule a quitté la route. Les quatre pompiers volontaires se rendaient sur les lieux d'un incendie. Avec le cessez-le-feu, l'aide humanitaire commence à arriver au Liban. En ce moment, les camions des ONG sont noyés dans les embouteillages. Des milliers de réfugiés ont déjà envahi les routes pour regagner le sud du pays. Et selon l'ONU, la situation humanitaire au Liban est proche de la catastrophe. L'annonce est tombée ce midi. Philippe Douste-Blazy se rend au Liban. Le ministre des Affaires étrangères doit décoller aujourd'hui pour se rendre à Chypre, puis Beyrouth demain. Philippe Douste-Blazy part discuter du déploiement de la FINUL, les 15 000 hommes qui doivent...